Donc on est sur la fin, le huitième cours sur de Christologie sur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va plus particulièrement parler du Christ glorieux. Je vais juste vous demander si vous pouvez fermer vos micros pendant que je parle, parce que ça va faire des échos partout. Je ne suis pas très sûre que tout soit bien calé. Puis après, évidemment, vous pouvez poser vos questions, mais ça facilitera le cours. Alors, donc qu'est-ce que la gloire? Déjà, c'est la manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu. Donc, c'est ça dont on parle, appliqué à Jésus-Christ. Je vous ai mis une citation du catéchisme de l'Église catholique. Jésus-Christ est Seigneur, il possède tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il est au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance et souveraineté, car le Père a tout mis sous ses pieds. Le Christ est le Seigneur du cosmos et de l'histoire. En lui, l'histoire de l'homme et même toute la création trouvent leur récapitulation, leur achèvement transcendant. C'est un peu une vision du Christ en majesté. J'aurais pu aussi prendre, mais j'ai pas d'image, mais j'aurais pu prendre les Christ en majesté dans les églises, dans les mosaïques byzantines. Voilà. Alors, plus particulièrement là, on va traiter finalement les trois temps, alors pas dans l'ordre exact, mais on va travailler sur les trois temps du Christ glorieux, puisqu'on a à la fois la résurrection, qui est déjà le Christ glorieux, en tout cas avec sa chair glorieuse, et déjà quelque chose de sa gloire, l'ascension, et puis la parousie, donc le retour du Christ à la fin des temps. Alors on a des passages dans les Écritures qui témoignent de ces événements. Parfois qui sont plus un discours un peu plus théologique et qui amorce une interprétation. Donc on n'a pas toujours une grande description sur le sujet, bah, notamment la parousie pour bonne raison que ce n'est pas encore là. Et en fait, on va plutôt se pencher sur trois points qui me paraissaient intéressants à souligner et qui font débat, qui sont l'historicité des événements. Comment peut-on dire que ces événements sont historiques, ont une réalité historique? Et pas seulement mythique. Un deuxième point qui va être le Christ glorieux dans sa chair et comment est-ce qu'il a pu vivre dans ce monde. Donc là, on est plutôt entre le temps de la résurrection et de l'ascension. Et puis, en quoi est-ce que cette déclinaison, c'est en unité, en fait, de tout ce mystère pascal dans un temps qui s'étire et qui s'étire un peu loin, puisque ça va jusqu'à la parousie. Donc cette notion autour du temps. Et l'unité du mystère. Alors, tout d'abord sur l'historicité de la résurrection, de l'ascension et de la parousie. Donc, comment est-ce qu'on peut penser la résurrection? Alors, c'est encore plus vrai pour l'ascension et la parousie, comme des événements qui peuvent se situer dans notre espace-temps. Alors, penchons-nous d'abord sur les Écritures, qui nous racontent des faits. Donc, les récits de la résurrection concernent d'abord le tombeau vide et le corps disparu, puis des récits d'apparition. Toutes les apparitions de Jésus ressuscité ont montré que à la fois Jésus avait une humanité, c'est un homme, il a été avec eux, et en même temps qu'il est doté de propriétés nouvelles et proprement surnaturelles. Alors je vous mets quelques exemples. Il entre et sort toutes portes closes. Voilà, donc on a plusieurs événements qui sont voilà un peu de façon et surtout il est à deux endroits, à plusieurs endroits en même temps. Mais pour tout le reste, c'est très dans une condition ordinaire. Il mange, il boit, il n'a pas d'aspect particulièrement, on ne prend pas pour. Enfin, il n'est pas spécialement brillant comme dans la Transfiguration. Il y a très peu de miracles après la résurrection. Il y a juste la pêche miraculeuse au bord du lac de Capharnaüm. Donc, on a peu de détails fantastiques, pas de détails fantastiques du tout. On a très peu d'interventions d'anges, juste autour du tombeau. Et donc on est sur des choses qui paraissent très ordinaires et qui font qu'on a une vraie crédibilité qu'on peut accorder à ces récits après la résurrection, de la même crédibilité que les récits avant la résurrection. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que les récits d'évangile, ils insistent sur le côté charnel de la résurrection, sur la réalité que ça porte, puisqu'il y a on le voit qu'il plein d'aspects, il mange, il est touché, il touche. On parle de lieux, Jérusalem, la Galilée, Emmaüs, la Béthanie. Donc on a un vrai ancrage dans la réalité. On a aussi un essai d'avoir une chronologie des événements, Marc 16 ou en Luc 24, Voilà, on essaye de cadencer les événements, donc de mettre ça dans le temps. Et puis on a l'affaire des gardiens du tombeau que je trouve intéressante, qui permet bien montrer qu'on a un souci d'exactitude, d'historicité. Voilà, on essaye de dire que voilà, on essaye de donner explication. Les gardiens ont propagé une légende comme quoi le corps aurait été enlevé, mais en même temps ils étaient en train de garder, et donc on a bien ce côté. On essaye de pas de prouver, mais en tout cas de bien décrire les faits et de montrer la réalité des événements. On a aussi toutes les mentions selon les Écritures, Luc 24 ou 25, qui montrent bien qu'on a une continuité depuis l'annonce jusqu'à la réalisation. Et donc, on est bien dans un ensemble de choses. On n'est pas juste sur un événement surnaturel à un instant T, mais on est quelque chose qui s'ancre dans une histoire et qui a été annoncé. Voilà. Donc, on a vraiment ce côté événementiel de la résurrection qui est vraiment manifesté dans les évangiles et qui nous montre quelque chose d'une dimension historique de la résurrection, voilà, qui s'ancre dans l'histoire. Alors, pour l'ascension, déjà l'ascension, c'est finalement c'est la dernière apparition de Jésus ressuscité. Donc, on a plus, c'est la fin du temps des apparitions, où on a un Jésus qui est encore dans la continuité de sa vie terrestre. L'ascension, elle s'adresse à ses disciples, donc, mais tout comme les apparitions ressuscitées, qui ont pu le connaître durant sa vie et ainsi porter un témoignage fort. Donc on a vraiment le même schéma dans la résurrection et puis au moment de l'ascension. C'est vraiment d'abord une partie de l'événement qui est en creux. Dans l'ascension, Jésus disparaît à leurs yeux et on dit qu'il est assis à la droite du Père. Et dans la résurrection, c'est surtout un tombeau vide d'abord, c'est ça les événements. Donc du coup, on a toujours cette idée un peu en creux. Et puis, on s'adresse à chaque fois, dans tous les cas, on s'adresse aux disciples, donc à ceux qui ont connu Jésus avant et qui peuvent le reconnaître. Voilà. Et le connaître pour ce qu'il est et pour ce qu'il est devenu aussi, le Christ glorieux. Dans le Nouveau Testament, on a peu de... ça décrit peu l'ascension. On a surtout le début des Actes des Apôtres, en fait, et puis la fin de la dernière, dernier passage de l'Évangile de Saint-Luc. Voilà. Puis dans Saint-Marc, on a aussi une phrase qui fait mention probablement de l'ascension. Et puis après, dans la partie les lettres de Saint-Paul, mais aussi dans la première épître de Saint-Pierre, et à plusieurs moments dans les Actes des Apôtres, on a des textes qui font allusion à l'ascension, même si c'est pas, on ne la décrit pas précisément, mais on en parle. Voilà, je vous ai mis un certain nombre de références. Donc l'ascension, on a quand même des faits qui sont racontés et qui sont explicités. La parousie. Alors la parousie, on est un peu plus, c'est un peu plus subtil, on va dire. Alors déjà, c'est le Christ lui-même qui présente la parousie comme un événement avec une date. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Donc il y a bien un temps qui est quand je serai parti. Et ensuite, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi. Donc, il y a un temps donné pour ce retour du Christ. Dans les évangiles synoptiques, il y a certains passages qui semblent ne laisser aucun doute sur l'imminence de la parousie et des signes précurseurs qui l'annoncent. Donc, on a toute la thématique autour de, notamment la phrase dans Marc 13, 30, sur « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive ». Voilà, il y a aussi d'autres passages sur Matthieu. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Ou encore, toujours Matthieu, « Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Voilà. Donc ça, c'est une première partie de l'annonce qui dit que ça va être imminent. Et puis, il y a une deuxième partie d'autres annonces à d'autres endroits qui le positionnent dans une époque plus lointaine. Sans que ce soit précisé le moment. Alors déjà, sur beaucoup de paraboles, qui laissent supposer qu'il y a un certain temps qui doit s'écouler encore, pendant lequel la vie terrestre se poursuivra dans les conditions habituelles. On a toutes les paraboles autour du grain de moutarde, celle du levain, des méchants vignerons, etc. Donc on a un certain nombre de paraboles qui nous parlent de ce retour du Christ, ou de cette fin des temps, ce jugement, mais sans être plus explicite que ça. Dans les épîtres de saint Paul, il présente bien la parousie et le jour du jugement comme une seule et même attente. Donc, c'est à la fois le retour du Christ et le jour du jugement. Donc, je vous ai mis plein de références dans Corinthiens, Philippiens et Thessalonique. Voilà, dans l'Apocalypse aussi, on a cette mention dans l'Apocalypse 20-12. Donc, on a cette connexion entre ce jour, ce retour du Seigneur. Et dans l'Apocalypse, on a, après ce retour du Seigneur viendra la fin, soit immédiatement, soit après une durée de 1000 ans. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Corinthiens, c'est plus rapide. Donc, on a cette idée de temps qui est là. Voilà. Dans tous les cas, que ce soit présenté comme un événement sans date, qu'on ne sait pas, en tout cas, c'est jamais présenté comme un événement qui serait sans cesse reporté, juste pour nous tenir en haleine. Et finalement, ce qui s'importerait, c'est le temps présent. Non, c'est présenté toujours comme un temps qu'on doit désirer, qui est notre espérance et qui va venir. Voilà. On ne sait pas bien quand, mais il viendra. Et Jésus lui-même dit qu'on ne connaîtra pas le jour et l'heure. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père et lui seul. Comme s'il y avait une décision du Père à ce moment-là. On parlera un tout petit peu plus tard après de qu'est-ce qu'on peut interpréter sur ce temps d'attente. Là, c'était un peu sur les faits. En tout cas, sur la parousie, voilà, il y a une idée de date et d'un moment qui va se passer avec un retour du Christ qui est quelque part dans le temps. Alors, ce que mettent en avant les témoignages, on est toujours dans le thème de l'historicité, ce que mettent en avant les évangiles, c'est le témoignage. Voilà. Il faut, et ça le dit dans Actes, quand Pierre dit qu'il faut qu'il y ait un douzième homme qui remplace Judas pour être apôtre avec les 11 autres. Il dit, il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Donc, on est sur une notion de témoignage. Est-ce que je peux vous demander juste de fermer votre micro? Je ne sais pas qui a son micro ouvert, parce que ça fait des interférences, je suis désolée. Donc, le débat qui semble constituer la possibilité pour la science historique de connaître la résurrection. Alors, attendez, je vais y arriver. Normalement, je peux désactiver tous les micros. Voilà, c'est miraculeux. Voilà, ça sera plus facile. Vous pouvez le rouvrir quand vous voulez. Donc, le débat qui semble constituer la possibilité pour la science historique de connaître la résurrection provient de l'impossibilité présupposée d'admettre dans l'histoire un fait de cette sorte. Donc, en fait, le problème, ce n'est pas les témoignages qui sont nombreux, recevables. Les évangiles sont des vrais témoignages avec de nombreux témoins, etc. Mais ce qui est bien difficilement croyable, et donc ce que l'histoire, la science historique a du mal à accepter, c'est le fait que cet événement, il est extraordinaire, il est unique. Voilà. Donc, de la même façon que la résurrection, l'ascension, elle dépasse ce qui est vraisemblable dans notre expérience humaine. Voilà. Et on pourrait dire de la même chose de tous les événements un peu miraculeux de la vie de Jésus. Donc l'objection, elle n'est pas sur le fait que ce n'est pas historique au sens qu'on n'a pas les témoignages ou qu'il ne serait pas recevable. Mais la science historique a du mal à l'admettre parce que pour elle, ce n'est pas possible en fait. Voilà. Donc on est dans le dehors de la crédibilité parce que c'est apparu une seule fois. Voilà. Une autre objection sur l'historicité, c'est le fait que le Christ ressuscité et à l'ascension n'est apparu qu'aux disciples. Et donc que ces témoins sont des amis, et donc que ça enlèverait quelque chose à la valeur du témoignage, ce qui est rien n'est moins faux, puisque ces témoignages, on pourrait dire que le fait que ça a été jusqu'au martyr, et bien ça montre bien que les témoignages, ils étaient valides. Quelqu'un qui va jusqu'à donner sa vie, c'est qu'il est un témoin un peu authentique. Enfin, en tout cas, il y met beaucoup de cœur, il y met toute sa vie. Donc ces témoignages, ça n'enlève pas leur crédibilité. Dans l'histoire, de toute façon, des témoignages, ce n'est pas toujours des témoignages contradictoires. On a souvent eu des... Juste en sciences historiques classiques, il y a souvent des témoignages qui sont un secrétaire qui a fait la biographie de la personne dont il était le secrétaire, par exemple, ou d'autres familiers qui ont fait les biographies ou qui ont raconté la vie de quelqu'un. Donc, il n'y a aucune raison que ce soit disqualifié parce que c'est des amis. Par contre, ce que souligne, et c'est un peu la théorie du phénomène saturé de Jean-Luc Marion, c'est qu'il faut croire pour voir. Et finalement, c'est pas anodin justement que le Christ soit apparu à ses disciples. C'est que pour être reconnu, il faut d'abord que la personne ait été préparée quelque part pour être un vrai témoin. Voilà. un témoin qui passerait par là, qui ne le connaîtrait pas et qui ne le reconnaîtrait pas. Donc, il y a cette idée avec Marion qui est vraiment qu'il faut croire pour voir. Donc, il a fait beaucoup d'articles là-dessus. Et au passage, je vous conseille de lire dans la revue Résurrection du numéro 86 et 87 qui sont en ligne. Hein, donc, c'est dans les archives, elles sont ouvertes. Vous pouvez aller lire, c'est tout une revue sur, enfin la revue, le numéro 86 est sur Jésus ressuscité. Et il y a notamment un très long article de Jean-Luc Marion qui décrit plein de choses très intéressantes. Bon, c'est pas toujours très facile à lire, Jean-Luc Marion, mais quand même, je pense que c'est lisible. Et il y a d'autres articles qui sont tout aussi intéressants sur Jésus ressuscité. Alors, cette parenthèse étant fermée, donc ce que dit Jean-Luc Marion, c'est le fait précède la foi. La foi ne suffit pas à le fonder. Donc, ce n'est pas parce qu'ils avaient la foi qu'ils ont trouvé le fait ou qu'ils ont créé le fait, mais c'est il y a eu la foi, mais le fait ne suffit pas pour qu'il y ait la reconnaissance. Voilà. Et donc, il faut le fait, il pourrait très bien rester méconnu si la personne n'est pas préparée quelque part et si elle n'a pas cette grâce de la reconnaissance. Saint Grégoire le Grand, à propos de la scène de Jean 20, 24, 29, où vous avez les apôtres qui arrivent au tombeau, l'apôtre Jean qui arrive au tombeau avec Pierre. Voilà, et Saint Grégoire le Grand dit bah, l'apôtre vit une chose et il en crut une autre. Pardon, c'est pas le passage, excusez-moi, au tombeau, parce que là aussi il voit quelque chose et il en croit une autre, mais c'est au moment de l'apparition aux apôtres. Voilà, il vit un homme et des cicatrices, et à partir, c'est Thomas, et à partir de là, il crut à la divinité de Jésus ressuscité. Donc on a bien le témoin, il comprend ce qui se passe parce qu'il a déjà la grâce de la foi finalement et il est capable de décoder ce qui se passe. Voilà. Donc c'est, je reprends, c'est Thomas qui n'était pas là la première fois et 8 jours après il est avec les autres apôtres et Jésus apparaît et Jésus lui dit « Mets ta main dans mon côté » et lui il voit effectivement l'homme Jésus, il voit les cicatrices. Et on ne sait même pas s'il a touché, mais en tout cas, il a cru tout de suite et il dit « Mon Seigneur est mon Dieu ». Donc, il n'était pas en rapport exact avec le fait que c'était bien Jésus le crucifié. Voilà. Mais on pourrait dire la même chose du tombeau. Supposons, donc, si quelqu'un, dans les témoins des apparitions, avait été quelqu'un qui, avant la passion, avait refusé toutefois Jésus, qui n'aurait pas suivi et qui n'aurait pas voulu reconnaître que c'était un homme, pas quelqu'un d'envoyé, en fait, il n'aurait pas... Voilà, il aurait été un inconnu de même et il n'aurait absolument pas reconnu ou soupçonné la présence de Jésus crucifié. Sauf s'il y avait une grâce de conversion et ça a été le cas pour saint Paul. Voilà, donc en fait, c'est vraiment la phrase de Matthieu 7 que je trouve très juste. Selon la mesure dont nous mesurerons, nous serons mesurés. Et donc, dans cette reconnaissance des faits de la résurrection ou de l'ascension ou de la parousie, eh bien, il y a quelque chose de... la manière dont on regarde, dont on prend les lunettes, et ben ça permettra de donner la vraie mesure des choses. Donc ça, c'est l'idée aussi que la résurrection, ce n'est pas un fait ordinaire, et donc on a besoin de se laisser interpréter, parce que c'est un fait qui porte au-delà de ce qu'il est lui-même. Donc ce n'est pas juste la résurrection, le retour à la vie, comme Lazare, par exemple. C'est la résurrection, il y a quelque chose de plus qui se joue, ça va au-delà et ça ne nous laisse pas indifférents. Donc il y a quelque chose de l'interprétation qui est aussi notre être qui se laisse interpréter par l'événement. Voilà. Et c'est ce qu'a donné, c'est pour ça qu'on peut dire que le témoin, pas juste que le témoignage parfait qui est le martyr, et il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un témoignage juste, tiens, il s'est passé tel événement que je regarde de loin. Mais c'est un événement tel qu'il a une empreinte sur nous et qui nous conduit à être nous-mêmes dans le témoignage ou dans la reconnaissance. Donc ça se joue avec notre être et notre personne. Une autre phrase de Jean-Luc Marion pour expliciter. Le dilemme ne se situe donc plus entre le fait et la foi qui devrait supplier. Donc on n'est pas sur une question de il y a d'un côté l'histoire et de l'autre côté la croyance. Non, pas du tout. La question, elle est entre le fait, au sens de l'événement, que seul peut supporter la foi et la dissolution arbitraire autant que nécessaire du matériau historique. Donc, quelque part, il faut se laisser rebeloter. Et ce n'est pas juste un matériau historique, c'est un fait que seule la foi peut permettre de reconnaître. Voilà. Et donc on a cette cohérence, cette historicité qui n'est pas au sens historique classique, mais qui est au sens historique événementiel, enfin où il y a la cohérence d'un fait, où il se passe quelque chose. Voilà. Sur l'historicité encore des événements, je voudrais insister sur la coïncidence entre l'événement et la foi pascale. On entend souvent dire, c'est comme si on avait fait une reconstruction, que les apôtres avaient fait une reconstitution a posteriori. Voilà, ils avaient refait l'histoire et ils en avaient déduit qu'il y avait la résurrection. Et voilà. C'est pas du tout ce que les quatre évangiles et les actes nous montrent. On n'est pas du tout sur comme s'il y avait tout d'un coup une lente genèse, on extrapole et puis on en crée la foi pascale comme si on crée quelque chose. Mais pas du tout. C'est quelque part comme une illumination, quoi. On est dans ce domaine-là. Il la fondait tout d'un coup, non pas la suite de l'expérience d'un seul individu, qui de toute façon n'aurait jamais pu faire partager sa conviction aux autres, soyons réalistes, mais bien plutôt comme une sorte de convergence singulière de nombreuses expériences exceptionnelles, individuelles ou collectives, et qui font que tout d'un coup, c'est là, quoi. Voilà. Et c'est cette coïncidence d'expériences multiples qui serait complètement absurde pour le coup, et qui serait une énigme s'il n'y avait pas eu un événement au cœur de ça. C'est-à-dire que si on se dit que c'est une construction des apôtres, et notamment de saint Paul qui est souvent taxé de ça, et bien en fait, c'est, au contraire, ce serait encore plus historiquement indéfendable. Voilà. Parce que quelle reconstruction a posteriori sur un événement qui est déjà extraordinaire. Donc on a bien un événement cœur, et tout de suite, dans la foulée, toutes ces expériences qui font que ça se cristallise et qu'on en déduit, ou qu'on reconnaît la foi pascale et donc la foi en Christ. Voilà. Voilà. Et donc en fait, on a, c'est ce que dit Justin dans son traité sur la résurrection, finalement, c'est le Christ ressuscité qui lui-même qui témoigne de sa résurrection. Et donc finalement, c'est lui qui démontre les choses. Et c'est ce qu'il fait avec Thomas en se laissant toucher, mais c'est ce qu'il fait aussi avec Marie-Madeleine, près du tombeau. C'est qu'il il est lui-même, il authentifie lui-même sa résurrection par sa présence et en se faisant reconnaître de ses disciples. Voilà. Et puis en expliquant les choses aussi. Donc si le Verbe s'est fait chair et si nous avons vu sa gloire, si Dieu est intervenu dans l'histoire et non en marge de celle-ci, cela veut dire que certains événements ayant lieu dans le temps et l'espace de ce monde-ci portent tout le poids de l'éruption du monde nouveau. Alors il me semblait que ça c'était un texte que je mettais un peu après, mais bon, j'espère que je ne me suis pas embrouillée. Donc on a cette... en fait, ce qui déborde notre histoire, c'est que l'événement, c'est le Christ glorieux, quoi, qui est là. Et donc, du coup, il y a quelque chose de divin dans tous ces événements. Il y a quelque chose qui dépasse la création. Et donc, on est bien dans, à la fois, ça s'ancre, et certains événements sont vraiment lieux dans le temps et dans l'espace de ce monde-ci. Et en même temps, ils portent tout un monde nouveau, avec des possibilités nouvelles, mais qui nous attirent à lui et qui annoncent la parousie, en fait. Voilà. Et donc, finalement, Dieu, c'est exactement la logique de l'incarnation, c'est qu'il accepte de se laisser, quelque part, pas enfermé du tout, mais de se laisser prendre ou de se laisser restreindre dans notre registre phénoménal, enfin, dans la façon dont on vit les événements, dans la nôtre. Et donc, il n'est pas enfermé dans le cours des événements du monde, mais il est quand même, il visite, quelque part, il s'insère dedans. Voilà. Donc, il utilise ces événements, c'est pour ça qu'il continue à manger alors que probablement il n'en a pas besoin, par exemple. Voilà. Et donc, on a bien une résurrection qui a eu lieu un jour à un endroit, une ascension qui a eu lieu un jour à un endroit. Elle a pu être constatée par des yeux humains. Et donc, on n'est pas juste dans le domaine de la foi ou d'un psychologique, mais on est dans quelque chose qui est vraiment donné comme un fait, comme un événement, même si c'est la foi qui permet d'atteindre non pas juste l'événement de Jésus qui revient à la vie, mais d'atteindre, de voir plus pleinement la chose et donc d'accéder à ce monde nouveau, finalement, qui est le monde de la gloire de Dieu. Voilà, et donc chaque fois qu'on nie l'historicité de la résurrection, de l'ascension ou même de la parousie, et bien quelque part, en fait, on nie l'incarnation. Et donc, on nie la façon dont Dieu intervient dans l'histoire, la façon dont il a voulu venir en proximité de l'homme. Et donc, là, on touche, c'est un peu comme toute la thématique autour après de la résurrection de la chair, mais c'est vraiment cette thématique qui est un peu cœur, parce que c'est la manière dont Dieu veut venir visiter notre humanité pour l'embarquer avec lui dans son monde divin. Et donc, c'est très important de défendre le côté historique, le côté qui s'est réellement passé, parce que c'est comme ça que Dieu s'ancre dans l'histoire, en fait, vient nous visiter dans l'histoire. Bon, j'espère que je suis à peu près claire. Alors, la deuxième partie, c'est plus sur la glorification du Christ dans sa chair et dans notre monde. Donc là, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une chair glorifiée qui est encore capable d'être sur terre, de manger avec ses disciples, de faire des choses. Comment est-ce que Jésus ressuscité peut vivre dans notre monde, en fait? Alors, dans que ce soit bien les annonces que de l'Ancien Testament, mais dans tout le Nouveau Testament, on a plusieurs modèles. On a deux schémas, en fait. On a un schéma qui est plutôt mort-résurrection. Et on a un autre schéma qui insiste plus sur le côté abaissement-exaltation. Voilà. Dans l'Ancien Testament, on a tous les passages de Isaïe sur le serviteur. « Mon serviteur réussira, dit le Seigneur, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. » Donc là, on est vraiment dans le schéma abaissement-exaltation. L'exaltation concerne aussi la chair, donc on n'est pas juste d'un côté spirituel et de l'autre côté très incarné, pas du tout. L'exaltation, elle concerne aussi la chair. « Ainsi parle le Seigneur Dieu à ses ossements, je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez, je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau, je vous donnerai l'esprit et vous vivrez, alors vous saurez que je suis le Seigneur. » Dans Ézéchiel, cette idée de, voilà, il y a l'esprit, mais qui anime la chair, quoi. C'est pas, voilà, il y a cette idée d'embrasement. Et puis le psaume 15 avec « Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. » Donc déjà dans l'Ancien Testament, on a ces notions autour de la mort-résurrection et abaissement-exaltation. Et puis dans le Nouveau Testament, c'est encore plus marqué. Alors, la résurrection de Jésus, ça n'a pas été sa simple réanimation d'un cadavre. Elle a été toujours comprise comme l'accès à une vie nouvelle et glorieuse. Le mot « résurrection », qui veut dire « relever », ressurgit, a été appliqué dès les origines à l'événement pascal. On voit ça dans 1 Corinthiens, qui est probablement un des plus anciens témoignages que nous possédions, et donc on emploie déjà ce vocable de résurrection. C'est pas le seul vocable. Donc on a aussi la présentation de l'événement pascal sous l'aspect d'une exaltation céleste, ou encore sur l'aspect d'une intronisation royale. On est plutôt sur les thématiques de Deutéronome 7, 13. Donc, on a vraiment une richesse et une complexité de la façon dont on regarde la résurrection et le terme de résurrection. Donc, on n'est pas l'exhaustivité de tout ce qu'on peut dire. Voilà. Et c'est important d'avoir ces deux idées-là parce que la résurrection, ça porte un certain message sur une certaine idée sur la vie éternelle, sur justement cette corporalité, etc. Et les thématiques plus abaissement, exaltation, ça montre plus la divinisation et des aspects comme ça. Voilà. Donc on est sur deux thématiques qui sont très complémentaires et qui permettent de montrer toute la richesse de ce qui s'est passé. Voilà, qu'un seul mot aurait du mal à épuiser. Les pères de l'Église d'Ignace d'Antioche à Grégoire de Nice, en passant par Justin Tertullien, donc on a beaucoup de pères de l'Église qui ont parlé du Christ glorieux, ainsi sur le caractère charnel de la résurrection. Alors là, c'est parce qu'ils sont aussi en lutte contre les gnostistes et les martionnistes. Et donc même c'est Grégoire, notamment Grégoire de Nice, je vous ai mis un certain nombre de passages de Grégoire de Nice à la fin, qui dit que voilà, même si le corps il est clairement, c'est un corps d'homme quoi, mais même si ses propriétés, ses usages changent, on a vraiment on a à la fois Jésus qui est tout autre et le corps qui est tout autre, et en même temps il est vivant et finalement un homme de chair comme les apôtres. Donc on a ces deux aspects. Donc c'est à la fois le même corps et à la fois une mutation qui transforme complètement le corps. Alors, ce qu'interprètent les pères de l'Église, ce qu'ils disent, c'est que s'il est vrai que la matière, au contact de l'esprit divin, est pénétrée d'esprit et tend à l'esprit, À ce moment-là, on peut plus concevoir, plus facilement concevoir que grâce à l'action divine, le même corps puisse revivre sous une forme en quelque sorte sublimée. Donc on a cette alliance qui est que comme on croit en corps et esprit, enfin un être en complet, corps, âme et esprit, et ben du coup il y a effectivement l'esprit qui quelque part peut l'esprit saint qui peut sublimer le même corps et le rendre glorieux. C'est ça qu'on appelle le corps glorieux. Et donc il y a comme un nouveau statut. C'est pas qu'on soit il n'y ait plus de corps, donc c'est pas qu'on soit pur esprit, mais qui sera peut-être plus spirituel. C'est le mot qu'emploie Saint Paul quand il parle d'un corps spirituel, et je pense que c'est assez pertinent cette interprétation là. C'est-à-dire que voilà, on est sur terre, on est peut-être plus pêcheur, on est peut-être plus un corps animal qui est dissocié justement de notre esprit, notre âme, notre volonté. On n'est pas un corps unifié. Et que justement, ce qui se passe avec la résurrection, c'est un corps spirituel, donc qui est tellement irrigué par l'esprit que l'unité est là, et que du coup, il y a quelque chose des propriétés de l'esprit qui s'applique au corps. Alors, dans l'ascension, on a les deux, en Marc 16, 19, on a le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Donc on a les deux aspects, à la fois le enlevé au ciel, donc le côté élévation, et puis s'assit à la droite de Dieu, on a le côté en gloire, majesté. Donc on est vraiment sur cette, d'un côté sur quelque chose que les apôtres voient, enlevé au ciel, donc là c'est l'aspect proprement historique, enfin ce qu'ils ont vu, en fait, ce qui est constaté par les disciples. Et puis, l'autre aspect, c'est assis à la droite de Dieu, où là, on est vraiment sur un aspect proprement théologique, qui est l'arrivée de Jésus dans les cieux auprès du Père, et qui est aussi en lien avec la vision d'Étienne, où il y a les cieux ouverts, et Jésus à la droite du Père. Donc ça, c'était sur la partie les deux schémas. Là, je voudrais revenir sur quelque chose autour de cette histoire de monde nouveau dans le monde ancien. Donc comment est-ce que le Christ glorieux, après sa résurrection, peut s'insérer dans notre monde, et vraiment dans notre monde. Il a marché avec les apôtres d'Emmaüs, quoi. Donc il n'a pas fait semblant, quoi. Il était vraiment là. Voilà. Donc l'extraordinaire, c'est peut-être pas tant la résurrection que le fait que le ressuscité ait passé ce temps sur la terre. Voilà. Donc celui qui dans la résurrection appartient à un autre temps de l'économie n'en continue pas moins à se donner à voir dans le temps qu'il vient d'abolir. Parce que quelque part, avec la résurrection du Christ, on est déjà dans les derniers temps. Et donc quelque part, on est déjà dans la Jérusalem céleste d'une certaine façon. Donc le Père qui a donné au Fils de devenir manifeste, on pourrait dire manifeste de quoi ? À mon avis, c'est manifeste de la gloire qu'il a auprès du Père comme son Fils unique. Et donc c'est ça aussi qui explique peut-être la stupeur des disciples. Voilà, c'est qu'il y a ce côté, comment c'est possible que Jésus glorieux soit là avec eux, quoi, sur cette terre. Si on réfléchit à ce Jésus qui a pendant 40 ans vécu en ressuscité sur la terre, et donc sur notre terre, avec nos possibilités, etc., et ben je pense qu'on pourrait même se dire que c'est que c'est conforme au projet créateur de Dieu, et peut-être que c'est il a anticipé la manière dont sur terre on devrait vivre le plus près du Père, en fait, à la fois. Jésus, finalement, dans ses 40 jours, il a été ressuscité vivant dans ce monde. Et dans sa psychologie, dans son corps, dans tout ce qu'il a été, et bien, il a été en parfaite communion avec le Père. Et donc, ce qui pourrait être le premier-né de toute créature, ou la meilleure manière qu'on devrait vivre sur Terre, en vivant ressuscité, quoi. Voilà, et c'est ce qu'on, finalement, on est appelé à vivre en tant que baptisé. Même si on sait que c'est pas évident avec le péché, mais voilà, il y a quelque chose de ça. Je vous ai remis un passage de Jean-Luc Marion. Les apparitions du ressuscité achevant la manifestation de Dieu aux hommes et à toute la création n'ont de sens qu'eschatologique, donc l'anticipation de la fin des temps. Elle anticipe des Pâques sur la seconde présence où le Christ se donnera à voir à ceux qui l'attendent pour être sauvés. C'est une citation d'Hébreux. Donc la seconde présence, c'est le retour du Christ à la fin des temps. Si nous entendons préciser ce que furent les Christophanies, il faut les comprendre à la fois comme anticipation du jugement final, car la résurrection est notre rétablissement dans le fondement de notre nature et achèvement de la gloire trinitaire. Quand le ressuscité se donnera à voir, ce sera donc à partir de cet autre monde que sa résurrection. Plus précisément, puisqu'il se montre dans une forme devenue autre, exactement comme lors de sa transfiguration, l'aspect de son visage devint autre. Ainsi, la splendeur dont irradie sa présence vient d'un autre état de notre monde, non d'un autre monde, mais d'un monde qui ne reste le nôtre qu'en venant du Père, qui le donne au Fils. Telle est l'origine de la splendeur qui rejaillit sur tout ce qu'assume le ressuscité. Je trouve que c'est assez juste cette idée de se dire que ce n'est pas un autre monde, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans un monde parallèle, mais il est revenu dans tout le monde, mais il y a quelque chose qui est devenu tout autre, il est transformé, le monde est transformé par la présence du ressuscité en fait. Et cette présence du ressuscité, c'est quelque part, c'est le Père qui donne la gloire à son Fils et qui lui donne cet éclat et cette splendeur. Voilà. Et je trouve que c'est assez juste et ça peut nous donner aussi une image de voilà, Jérusalem céleste. Ce n'est pas forcément un autre monde, mais il y a quelque chose de ce monde-ci qui est sublimé et qui est transformé par la gloire de Dieu. Alors, la glorification de Jésus avec son corps. Alors ça, c'est un autre aspect qui est un peu troublant, c'est qu'on se dit, qu'est-ce que ça veut dire ce corps glorieux quoi ? Jésus ressuscité, pourquoi un corps finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc il manifeste par son ascension, parce que non seulement il a vécu les 40 jours sur terre avec ce corps glorieux, mais il est monté au ciel avec son corps, puisqu'il est assis à la droite du Père, il est monté avec son corps. Voilà. Et donc qu'est-ce que c'est que cette ascension où finalement Jésus partage désormais définitivement la gloire du Père. Et ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique, c'est la dernière apparition de Jésus se termine par l'entrée irréversible de son humanité, au sens corporel, enfin jusqu'à son corps, dans la gloire divine, symbolisée par la nuée et par le ciel, où il siège désormais à la droite de Dieu. Donc en fait, l'ascension, c'est une vraie étape importante dans la révélation de la gloire de Jésus. Et puis c'est l'aboutissement quelque part jusqu'au retour glorieux de la résurrection, puisque la gloire qui était voilée, manifestée en épisode discontinu, même après la résurrection, puisqu'il apparaît à des disciples, mais c'est en discontinu, et bien l'ascension en fait, on est avec la gloire stable définitive, puisque Jésus est au ciel à côté avec le Père, dans toute sa gloire et avec son corps glorieux finalement. Donc il a incorporé le corps, l'humanité tout entière avec un corps en Dieu. Voilà. Et donc droite du Père, ce que nous dit Saint Jean Damascène, c'est par droite du Père nous entendons la gloire et l'honneur de la divinité, où celui qui existait comme fils de Dieu avant tous les siècles, comme Dieu et consubstantiel au Père, s'est assis corporellement après qu'il s'est incarné et que sa chair a été glorifiée. Voilà. Et c'est très important ce corporellement. Glorification et l'exaltation à la droite du Père ne ramènent pas Jésus au sein de la Trinité après une sorte de voyage éclair sur Terre, sans conséquence dans l'humanité. Non, il revient avec son corps, voilà, qu'il a reçu de la Vierge Marie, avec son humanité, qui, elle, est associée du coup à la gloire de la divinité. Donc le Verbe de Dieu, il a pris la condition humaine, Jésus de Nazareth, et il retourne au Père avec cette même condition. Voilà. Et il reçoit cette glorification dans son être aussi de chair. Et donc maintenant, en Dieu, il y a de l'humanité, il y a de la corporéité. Voilà. Et ça, c'est quand même... non seulement il est venu habiter sur terre, et donc il y a eu du divin sur terre, mais il y a de l'humain, il y a de l'homme en Dieu. Voilà. Et donc, finalement, le Fils, quand il est à l'ascension, il nous communique... Il nous donne ce surcroît en fait d'épanouissement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir participer au monde invisible et mystérieux de Dieu. Et c'est ça qu'on verra en plénitude à la fin des temps. Et alors, du coup, la glorification, une manière de dire, c'est finalement là que Jésus ressuscité réalise le projet de Dieu. Et donc on a ce... Je vous ai fait une citation du Père Jacques Benoît, toujours dans la même revue Résurrection, c'est un autre article. Ainsi, il est en lui-même celui qui peut parfaitement se donner en tant qu'homme Dieu et à son Père et aux hommes qui ne le refusent pas et tout aussi bien les recevoir. Tout en étant radicalement différent de tous et de chacun, il est ainsi capable pour l'éternité de ne faire qu'un avec tous et chacun. La cohérence exigée par l'intelligence est à trouver à partir de cette logique. Il ne s'agit pas seulement de celle du monde matériel dans lequel les hommes sont enracinés, Il s'agit de celle du monde des parfaites relations personnelles auxquelles ils sont invités à participer. Celle-ci n'abolit pas celle-là, mais l'intègre en un ensemble nouveau. Cette logique de l'amour explicite la promesse du Seigneur d'être présent là où seraient réunis en son nom ses disciples. Les apparitions n'en sont dès lors qu'un cas particulier. Voilà, et donc on a bien le projet de Dieu qui va jusque-là, jusqu'à avoir un homme en Dieu. Et du coup, qui restaure les relations. C'est ça qui est important aussi dans ce passage. Alors, le troisième point sur lequel je voulais me pencher, c'était sur l'unité du mystère pascal dans un temps qui s'étire. Alors déjà, la densité des événements rend la chronologie difficile. Selon l'évangile de Luc, la finale, tout se passera en un jour. On a la résurrection dans la nuit, l'ascension le soir même, donc tout se déroule dans un jour. Et puis dans les actes des apôtres, qui sont quand même écrits par le même Saint Luc, il y aurait 40 jours entre Pâques et l'ascension. Voilà. Donc on a deux points de vue par le même auteur, donc c'est pas qu'il est schizophrène ou qu'il s'est trompé, c'est que dans les deux cas, il veut montrer quelque chose d'un peu différent. D'un côté, tout ramasser en une journée, ça montre que c'est vraiment un événement qui a un mouvement unique, avec plusieurs facettes, plusieurs événements dans le temps, qui se déploient dans le temps. Mais c'est vraiment cette idée d'unité, de tout ramasser pour montrer comment se déploie le dessein de Dieu. Mais il dit quand même que les événements sont distincts. C'est-à-dire que même s'il les dispatche dans la journée, on a quand même des événements qui sont bien distincts. Christ ressuscité, il utilise le mot « pas encore », « ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers le Père, va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». Donc là, c'est le Christ avec la Samaritaine, Marie-Madeleine, dans Saint Jean, dans l'évangile de Jean. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a un non-recouvrement, il y a la résurrection, c'est Jésus qui est là, et puis l'ascension, voilà. Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore montée vers le Père. Donc, il y a un événement qui va atterrir après. Voilà. Sinon, il n'y a aucune raison qu'il dise « je ne suis pas encore remontée vers mon Père ». Donc, même si on a tout en une journée, quelques heures, finalement l'ascension quelques heures après Pâques, dans tous les cas, on a vraiment des événements distincts qui se déploient. Voilà. Et c'est le Christ lui-même qui nous le dit. Voilà. Donc, voilà, cette façon de regarder la chronologie. Alors, ces 40 jours ou cette journée, si on peut dire, c'est un temps de pédagogie pour fortifier les témoins. Clairement, le temps de parler avec les disciples, d'échanger, de se manifester. Voilà, ça, c'est le temps un peu de pédagogie. Dieu a toujours utilisé le temps pour nous laisser le temps d'absorber les événements et de pouvoir grandir. Mais c'est aussi de montrer le temps du monde nouveau, c'est ce qu'on vient de voir, qui s'introduit dans le monde actuel. Donc on a quelque chose qui est le monde de la gloire, ce n'est pas une instantanéité. On a souvent la vision de dire, sur Terre, le cosmos, il est créé avec du temps et de l'espace. Donc voilà, on a de la chronologie, du temps, on a des minutes qui s'écoulent, etc. Et puis quand on est dans le temps de Dieu, en Dieu, il n'y a pas de temps. Non, on n'est pas sur une... Alors ce n'est pas le même temps, on est d'accord, mais ce n'est pas... comme s'il n'y avait pas du tout de temps, une sorte d'immobilité statique. Donc, on n'a pas c'est une vision bizarre que de... Enfin, c'est pas la bonne vision de se dire que le monde de la gloire, c'est... tout est instantanéité. Non. Il y a bien une sorte de déploiement, de montée progressive. Et les 40 jours de Jésus, entre la résurrection et l'ascension, c'est une montée. Voilà. Comme si le Christ lui-même, dans son humanité, avait pris le temps de franchir toutes les étapes de sa glorification et de bien poser la résurrection, les apparitions et l'ascension. Voilà. Et donc, on a ce déploiement dans le temps, comme s'il était nécessaire pour l'humanité. Donc, on n'a pas le Christ glorieux qui s'évapore dans l'éternité, l'immensité divine. C'est d'ailleurs plutôt rassurant, parce que si on veut une fin des temps et que nous, on puisse en bénéficier, on ne va pas se dissoudre dans un grand tout. Donc on va garder l'humanité et donc le Christ en Dieu avec son humanité, il garde une certaine forme de structure spatio-temporelle. Voilà. Parce que c'est notre état de créature corporelle qui fait ça. Donc en fait, ce que l'ascension, comme si elle épanouissait le caractère unique de la résurrection du Christ, en plaçant le Christ très au-dessus de nos conditions d'existence et la caducité de notre monde dans la gloire. Mais ça ne le rend pas tout de suite caduque, donc il y a du temps qui s'écoule. Voilà, donc ça, je pense que c'est très important de se dire qu'il y a du temps et qu'il y a une certaine dynamique y compris dans ce mystère pascal et entre la passion et la résurrection et l'ascension et le retour du Christ. Alors après, le deuxième point, c'est pourquoi est-ce que le temps qui s'étire, ça fait déjà plus de 2000 ans, entre l'ascension de notre Seigneur et son retour. Alors, c'est symptomatique, dès que Jésus parle de son départ, pof, c'est déjà le signe du retour. Donc, au moment où Jésus est à l'ascension, l'enlèvement de Jésus dans la nuée, eh ben, c'est le signe d'une venue similaire lors de l'avènement définitif. Ce même Jésus viendra comme cela. Donc, à peine on parle du départ, que c'est déjà le retour qui est annoncé. La vision d'Étienne, c'est le début de la parousie, puisque lui est rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Je ne précise pas, mais c'est intéressant de voir que pour Étienne, c'est debout à la droite de Dieu et nous, dans notre credo, c'est assis à la droite de Dieu. Bon. Doit bouger, ça doit être ça, mais j'ai pas cherché la différence. L'idée là, c'est qu'il veut dire en majesté, je pense, pour Étienne. Donc, pour que l'avènement définitif puisse advenir, on pourrait se dire qu'il y a, c'est comme s'il y avait des conditions qui devaient être remplies et que Jésus nous laisse le temps en fait. Donc, il prendra personne en traître. Donc, il faut qu'il y ait cette confrontation avec l'évidence de la lumière. Et que quelque part, tout homme ait pu prendre position pour contre Jésus. Voilà. Et donc finalement, ce que le jugement fera apparaître, c'est ce qui doit l'être, mais c'est ce qui aura finalement été déjà préfait par chacun pour qu'il ait le temps, il faut qu'il ait le temps de se convertir, soit inversement, ceux qui refusent, eh ben, qu'il ait le temps de le refuser. Voilà. Et donc, il y a comme cette pédagogie qui nous laisse le temps. C'est toute la thématique aussi de l'Ancien Testament, hein, où il y a le petit reste, on corrige les choses, on reprend. Et voilà. Donc, il y a tout ce temps qui est le temps, qui est finalement de la miséricorde de Dieu, de nous laisser le temps de nous convertir. Voilà. Et on a pas mal de textes qui éclairent cette affirmation d'Apocalypse. « Voici, il viendra au milieu des nuées. » Et tout œil le verra, et ceux-mêmes qui l'ont transpercé, donc ceux qui l'ont refusé, toutes les tribus de la terre seront en deuil à cause de lui. Donc la condition à la fois centrale et ultime pour qu'il revienne, c'est la prise de position par rapport à Jésus. Et du coup, ce temps, eh ben, il est conditionné par notre liberté, puisque l'homme est libre. Et donc, on ne peut pas être... on ne peut pas avoir cette vision à très long terme. Enfin, voilà, donc du coup, on a forcément... on peut pas se projeter aussi loin, et en tout cas Jésus nous laisse cette liberté, enfin Dieu nous laisse la liberté, et donc il nous laisse le temps aussi d'exercer cette liberté. Voilà. Alors Jésus, il a quand même des paroles très affirmatives, car il n'écrive pas une évolution historique présumée, mais les conditions qui vont marquer l'histoire à venir de l'humanité. Donc on n'est pas dans une théorie du progrès, mais dans un temps qui laisse à chacun le temps de... Voilà, qui vont marquer l'histoire, qui les conditions soient réunies. Voilà. Saint-Pierre nous dit dans sa deuxième épître que la fidélité des chrétiens hâte le jour, et inversement, la compromission des chrétiens avec les antichristianismes retarde le jugement. Donc on a vraiment cette date du retour du Christ qui est suspendue à notre liberté. C'est le temps de l'histoire jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Jésus, pendant les 40 jours qu'il a vécu en ressuscité sur notre terre, montre que nous ne sommes pas faits pour vivre simplement comme des créatures vivant sur cette terre, donc comme des animaux, mais que nous sommes vraiment invités à vivre filialement dans un monde nouveau, ce monde que nous pouvons connaître par lui, par l'Esprit Saint, et ce monde à venir qui récupérera et achèvera ce qu'il y a de bon dans notre monde. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est surtout la partie relation parfaite. On dit ce qui restera, c'est la charité, mais c'est quelque chose de ça. Ce que Jésus a vécu pendant ces 40 jours, c'est des relations parfaites avec son Père, avec ses disciples, etc. Et c'est ça qu'on est appelé à vivre, et c'est ça qui restera. Et c'est ça qui hâte le retour. Voilà. Donc en attendant l'heure, Jésus accepte d'être l'homme-Dieu, vivant en Dieu, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses en le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Voilà, et un morceau de notre monde est désormais capable de supporter la vie de Dieu lui-même. Donc, espérons le retour du Christ et hâtons-le par notre vie de baptisé. Alors, juste un petit passage sur la liturgie. Il y a une partie de d'Enguerranger qui fait une introduction à l'année liturgique qui nous dit « Cette portion de l'année liturgique en est la plus sacrée, celle vers laquelle converge le cycle tout entier. On le concevra aisément si l'on considère la grandeur de la fête de Pâques que l'Antiquité chrétienne a décorée du nom de fête des fêtes, de solennité des solennités. La période des 50 jours qui sépare la fête de Pâques de celle de la Pentecôte a constamment été l'objet d'un respect tout spécial dans l'Église. Le temps pascal est donc tout entier comme un seul jour de fête. Durant ces 50 jours, l'Église s'interdit le jeûne comme au dimanche où le Seigneur est ressuscité et tous ces jours sont comme un seul et même dimanche. Je vous souligne aussi que les préfaces du temps pascal disent toutes « Aujourd'hui où le Christ notre Pâques a été immolé ». Donc, ils mettent quelque chose comme si ce temps, ces 50 jours, mais en fait, c'était un seul jour. Et ce n'est pas seulement les 50 jours, c'est même depuis la Passion, en fait. Donc, on est de la Passion jusqu'à la Pentecôte. Voilà, on peut noter aussi que 50 jours, c'est cette fois cette semaine de 7 jours, à un jour près. Donc, c'est comme s'il y avait 7 fois le temps de la recréation, qui est le temps de la résurrection. Et donc, c'est intéressant de réfléchir à ce mystère pascal comme un seul grand ensemble de choses avec des événements qui sont certes distincts, mais qui procèdent tous du même mouvement et qui nous conduisent vers la parousie. Alors, juste pour mention, la fête de l'Ascension est apparue. Quand est-ce que la fête de l'Ascension est apparue ? Donc, il semble bien qu'après la fête de Pâques célébrée dès le 1er siècle, on ait ensuite prolongé la fête sur 50 jours. Au 3e siècle, on a distingué une seconde fête, la Pentecôte, puis l'Ascension au 4e siècle. Voilà, donc ça s'est créé un petit peu dans le temps, comme ponctuation de tout ce temps des 50 jours. L'événement, je vais terminer par là, l'événement est unique car en fait il est trinitaire. Alors, on pourrait penser que la résurrection, finalement, c'est juste l'happy end de après la croix, voilà. On a une forme de mise en avant de tout ce qui était autour de la croix, de la passion, de l'offrande du Christ. Voilà. C'est aussi parce qu'on a un vrai néoplatonicisme dans nos cultures qui minimise la résurrection de la chair et qui pourrait même aller jusqu'à aboutir au refus de la résurrection du Christ. Voilà. C'est-à-dire, voilà, l'offrande, le don, c'est ce qui est important. Et donc, la résurrection, elle est un peu anecdotique. En fait, la résurrection n'est pas du tout juste à la pienne. Elle est vraiment nécessaire à notre salut. D'ailleurs, saint Paul nous avertit, « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu. » Donc, c'est vraiment la résurrection qui est le mouvement, enfin, qui est le vrai, le salut aussi. Donc, le mystère pascal... en fait c'est un vrai événement trinitaire et je trouve que c'est une très belle façon de le regarder. On a le Fils qui s'offre en toute obéissance dans une oblation d'abord intérieure à la scène, je dis saint, puis charnellement sur la croix, et le Père qui agrée l'offrande et répond par la résurrection du Christ que réalise l'Esprit dans le Christ. Et donc on a bien ce mouvement trinitaire des trois personnes divines qui ne forme qu'un seul mouvement. C'est pour ça que je reprends cette idée de mouvement avec comme une offrande et une réponse à une offrande. Et donc, on ne peut pas séparer entre l'oblation et la résurrection. Voilà. Et le mouvement est un car il est au sein de la Trinité. La résurrection est vraiment trinitaire. On peut dire la même chose de l'Ascension, même si l'Esprit-Saint paraît plus absent. Mais finalement, l'Esprit-Saint, il est là en tant que le Christ glorieux, et puis on a cette idée de nuée, donc c'est comme l'Esprit-Saint qui... la nuée symbolise souvent l'Esprit-Saint. Donc on a aussi cette dimension trinitaire dans l'Ascension, et retour du Christ, on aura clairement... c'est clairement trinitaire aussi. Et donc du coup, je trouve que c'est intéressant de se dire que C'est à la fois des événements très distincts et c'est important de les avoir et de les méditer comme ça. Et en même temps, c'est un mouvement unique parce que c'est le mouvement de la Trinité. Et l'ascension, c'est exactement ça. C'est le Christ qui revient avec toute l'humanité. Et dans ce mouvement trinitaire, en fait, nous sommes incorporés par le Christ qui a introduit le corps et l'humanité en Dieu, enfin, dans la Trinité. Alors, petite conclusion. Je vous ai mis un petit passage de Théard de Chardin, quelque chose de très beau. « Christ glorieux, tu es le centre éblouissant où se relient les fibres sans nombre du multiple. Tes mains emprisonnent les étoiles, tu es le premier, le dernier, le vivant, le mort et le ressuscité. Tu rassembles en ton unité toutes les forces, tous les états. C'est toi que j'appelle d'un désir aussi vaste que l'univers. Tu es vraiment mon Seigneur et mon Dieu. » Je vous laisse méditer, c'est une très belle phrase, je trouve, qui en sert un peu tout. Et puis je voulais vous quitter avec Marie parce que c'est quand même le mois de Marie, donc on en profite, mois de mai. Et puis parce que je pense que dans son Assomption, en fait, Marie, elle nous prépare à approcher, enfin à méditer et à comprendre le Christ glorieux. Elle qui a donné un corps à Jésus, qui l'a suivi tout au long de sa vie, qui a été associée à sa mission, elle est aussi unie à la gloire de Dieu, de son Fils. Ça qu'on voit dans l'Assomption où son corps n'a pas connu la... Voilà, il est déjà ressuscité quelque part. Et elle est couronnée aussi au ciel. Et donc, il y a quelque chose de... voilà, elle est unie à la gloire du Fils. Et du coup, sa vie et sa mission trouvent leur aboutissement dans sa glorification avec le Christ dès la fin de sa vie. Elle n'a pas besoin d'attendre le retour du Christ. Mais elle attend quelque part aussi le retour du Christ pour qu'on soit tous en communion des saints. Tous ensemble dans cette glorification, mais en tout cas elle peut nous aider à comprendre cette glorification et comment avec Marie on peut le vivre plus dès maintenant. Je m'arrête là, d'ailleurs il est 21h30. Je vous ai mis derrière un certain nombre de textes de Grégoire de Nice que je trouve intéressant sur la résurrection et de Saint Justin. Voilà, donc je vous ai lu un petit passage. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des...